France Musique. Les grands entretiens. Jean-Baptiste Urbain. France Musique.
Montpellier, 24 janvier 1941, naissance de Isabelle Marielle Nordman, musicienne.
Marielle Nordman, troisième épisode. Hier, la harpiste nous racontait son duo avec Lily Daskin. Un autre grand et célèbre duo qu'elle a formé, c'est avec le flûtiste Jean-Pierre Rampal. Une rencontre initiée par sa professeure, Marielle Nordman suivait en effet de près les concerts Daskin-Rampal.
Je suis restée beaucoup dans la mouvance, si vous voulez, du duo pendant tout un temps. Ça faisait aussi partie de mes attributions et de ce que je pensais devoir faire et avec quel bonheur auprès de Lily Daskin. Je tournais ces pages pratiquement pour tous ces concerts. Je me demande comment je faisais parce qu'au milieu de tout ça, c'est vrai que je jouais quand même déjà beaucoup et puis j'avais quand même trois enfants, un mari, une maison. C'est un petit peu Shiva avec des tas de bras de partout. Et je me souviens un jour, c'était aux nuits de Nohant. Il faisait un froid absolument abominable et Rampal râlait en disant « mais je peux pas jouer, j'ai les lèvres gelées, la flûte est froide, je joue pas bien et tout ça ». Et puis Daskin était là et elle accordait sa harpe, il se tourne vers elle et il lui dit « mais Lily, dis quelque chose, enfin tu n'as pas froid toi ». Et Madame Daskin avec une voix gentille me disait « mais pas du tout, je suis très bien ». Et Rampal furieux lui a répondu « ouais mais bien sûr, mais toi tu es une force de la nature ». Alors il fallait voir le tableau, Madame Daskin mesurait 1m48, Rampal était quand même un personnage assez important, très grand et puis surtout assez costaud. Et de l'entendre dire à Daskin qu'elle était une force de la nature, c'était... Enfin voilà, donc je crois qu'il y a eu un moment, c'était pour un flûte-harpe de Mozart, Madame Daskin n'a pas pu le faire, et Rampal a dit, si tu peux pas le faire, je veux que ce soit Marielle qui vienne te remplacer. Et en fait, ça a commencé un peu comme ça, Daskin voulait moins voyager. Rampal faisait une carrière internationale, mais vraiment sur l'ensemble du globe. Et comme Daskin sortait pratiquement pas de France, donc il a demandé la permission, et moi aussi, à Madame Daskin de m'emmener avec lui. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et voilà, il m'emmenait pas sur l'ensemble de la planète, mais enfin, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné aux États-Unis, en Israël, je sais pas où, en Europe. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué ensemble. Ma foi, ça se passait plutôt bien. Alors là, moi, je découvrais un être de plaisir de vivre, de qui aimait, qui adorait manger avec un R, avec un double R même, qui adorait manger, qui adorait rire, qui adorait la vie en fait, tout simplement, et qui était d'une gentillesse et d'une générosité et d'une convivialité extraordinaire. Et j'ai joué pendant 10 ans avec lui. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas enregistré énormément. On a enregistré un disque.
Plusieurs fois enregistré
on a enregistré le concerto de Mozart deux fois. Une fois avec l'English Chamber Orchestra et une fois avec l'orchestre Franz Liszt de Budapest. Alors on a beaucoup, beaucoup tourné avec cet orchestre-là. Et puis j'ai fait un disque flûte et harpe avec Rampal aussi. Alors il y a eu deux disques chez Erato et un disque chez Sony.
Thank you.
distributeurs aussi, des maisons de disques. On vendait par millions. Vous étiez libre quand vous enregistrez ce disque, l'art romantique.
Oui, bah, ça,
c'est des programmes où vous étiez libre.
J'étais complètement libre. Ça, c'était une des choses les plus extraordinaires. C'est que Michel Garcin était un homme qui faisait confiance aux gens qui l'engageaient. Parce que de faire un disque, il y a 30 ans, ou peut-être même 40, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire un disque. Si vous avez 5 ou 6 000 euros, n'importe qui, entre guillemets, peut faire un disque et peut se faire enregistrer dans, pas dans n'importe quelle maison de disques, mais enfin dans beaucoup de maisons de disques, il va être content de pouvoir bénéficier de, voilà, d'un apport d'argent tout en sortant un disque. À l'époque, on était choisi par un directeur artistique, et si on n'était pas choisi, on faisait pas de disque, et puis on n'en parlait plus. C'était tout, il n'était pas question, il n'y avait pas cette possibilité. Alors, je ne suis pas complètement certaine que ce qui se passe aujourd'hui soit très très bon pour la musique classique. Je pense que c'est bon pour les jeunes artistes d'avoir un disque qui peut être une carte de visite pour eux, c'est-à-dire que ça leur permet de pouvoir envoyer un disque en disant « voilà, j'ai fait ça », et où c'est un disque magnifique, et c'est une marche pour pouvoir accéder à la carrière avec un grand L. À l'époque, c'était pas ça, on enregistrait si on avait déjà un peu pignon sur rue, et si le directeur artistique avait envie de vous faire des disques. Ce qui avait de fantastique avec Michel Garcin, c'est que quand il accordait sa confiance à quelqu'un, il le lui accordait complètement. C'est-à-dire qu'il demandait « qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Dans quel domaine ? Vous voulez jouer toute seule ? Vous voulez jouer avec quelqu'un d'autre ? Vous voulez jouer avec orchestre ?» C'est comme ça que j'ai eu la chance de faire un disque. Enfin, j'en ai gardé un beau souvenir avec Armin Jordan, qui était quand même un très 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 grand chef d'orchestre, aussi un homme adorable. Il me semblait que j'étais très jeune et que c'était extraordinaire de pouvoir faire un disque avec un homme comme lui, avec un chef d'orchestre comme lui, avec un, je crois que c'était l'orchestre de Lausanne qui était un très bon orchestre. Et puis bon, après ça, il y a eu des tas d'autres maisons de disques un peu moins importantes qui sollicitaient pour une chose ou pour une autre. Et puis ce qui était bien, c'est qu'il y avait la liberté de faire ce que je voulais. Et c'est tout ce dont j'avais envie dans la vie, c'est de pouvoir faire ce que je voulais, de pouvoir graver ce que je voulais, les choses auxquelles je croyais. Et ça, en fait, c'est à ce moment-là que je commence à faire beaucoup de transcriptions. J'ai fait énormément de transcriptions de choses écrites pour le piano ou pour le clavecin. Là, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais beaucoup de recherches à la Bibliothèque nationale parce qu'à l'époque, il fallait prendre son papier et son crayon, puis il fallait écrire. Hein. Il n'y avait pas trop d'autres solutions. Ça va beaucoup plus vite maintenant. On peut faire des photocopies et c'était très bien. Mais à l'époque, ça se faisait encore manu militari. Donc, c'était passionnant parce que voilà, on se faisait monter des manuscrits extraordinaires et puis on avait le droit d'en regarder 10 dans une journée. Et on les feuilletait, puis si ça nous plaisait, on faisait des copies. Enfin, ça, c'est vraiment une époque. Hein. Mais c'était passionnant parce que c'était la découverte de partitions. Alors, c'était pas toujours extraordinaire, mais on pouvait déchiffrer au piano. Et puis, voilà, on avait une idée de ce qui se passait. Thank you.
puis vous étiez, et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, disons, un disque de Marielle Nordman, des CD, des 33 tours. Vous étiez chez les gens. Les gens vous écoutaient. Enfin, il y a ce rapport-là qui est moins le cas aujourd'hui.
Mais peut-être
immense.
Oui.
Immense.
Mais je ne sais pas, peut-être. Enfin, moi, oui, quelquefois, je suis étonnée aussi de voir que le disque rentre tellement chez les gens. Mais peut-être que ça venait aussi du fait que la musique classique était quand même très à l'honneur à la télévision. Il y avait des émissions de musique classique, il y en avait beaucoup. Il y avait Alain Duhaut qui faisait énormément de choses, il y avait Chancel, il y avait l'Odéon. Et effectivement, bon, bah, souvent, on m'invitait, donc les gens connaissaient. Ensuite, on donnait des concerts dans les villages ou dans la ville ou dans le, et les gens venaient, et puis vous avez vu à la télévision, vous étiez là, donc, voilà. Il y avait une proximité, voilà. On devenait quelqu'un qui faisait partie d'une espèce de famille, quelque part.
Vous avez même présenté à la télévision les Victoires de la musique.
J'ai présenté les Victoires de la musique, oui, avec...
Patrick de Carolis.
Oui, c'était un grand trac, ça aussi, un grand, grand trac. C'était bien, je pense que j'ai dû faire ça comme un chou-fleur, mais enfin bon, c'était assez extraordinaire de parler des autres, de parler tout le temps de ma petite personne. Puis, ça, vous le savez peut-être pas, mais j'ai eu une émission de radio.
Si sur Radio savez. Bleu.
Oui, sur Radio Bleu, qui s'appelait Glissando, un truc comme ça. Et ça me permettait aussi de faire passer des musiques que j'aimais bien, puis de faire des mélanges entre la variété, le classique, le jazz. Je connais pas grand-chose, malheureusement, mais enfin voilà. Donc ça, c'était... Puis de faire passer les copains, enfin ceux qui jouaient bien, parce que les copains qui jouent pas bien sont des copains, mais ce sont pas des musiciens qu'on fait passer. Tout ça est très, très, très riche. Hein.
Les grands entretiens de Marielle Nordman, France Musique.
On a parlé de vos duos, vos grands duos avec Lily Laskin, avec Jean-Pierre Rampal, mais vous avez été aussi en duo à la scène comme à la ville avec Patrice Fontanarosa. Vous avez joué ensemble aussi.
Ah oui, bien sûr. On est quand même resté presque 40 ans, on n'a pas réussi à atteindre complètement les 40 ans. Mais... Alors, ça a toujours été pas facile. Pour être très, 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 très honnête, je parle de la scène. Patrice Fontanarosa était un très très grand violoniste et un très grand artiste, mais il n'y avait rien à faire. Quand on était sur scène, j'étais sa femme. J'allais dire, je n'étais que sa femme. S'il m'entend, il ne sera pas content. Il y avait quand même ce rapport. Bon, Patrice est d'origine italienne, et donc à la maison, c'était l'homme qui dirigeait la maison. Enfin, en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'il l'imaginait. Et la femme qui était une femme qui devait suivre un petit peu le mouvement. Alors, à la maison, ça pouvait passer, mais par contre, sur scène, je ne pouvais pas, parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait non. Alors, c'était très curieux, parce que les répétitions, on ne s'engueulait pas, mais c'était assez tendu, parce qu'on n'était pas toujours d'accord. Puis, il fallait beaucoup travailler les choses lentes, par exemple. Et moi, les choses lentes, ben, je n'avais pas envie de les travailler. J'avais envie que ça soit un peu spontané, et là, sur ce point-là, on est très différents l'un de l'autre. Donc, j'ai mis pas mal d'années... Quand je dis pas mal, c'est beaucoup, à comprendre qu'il fallait que je dise oui, mon chéri, mais bien sûr, mon chéri, mais oui, mon chéri, pendant qu'on travaillait, et quand on était sur scène, n'en faire qu'à ma tête. Et donc, après ça, ça finissait quand même par fonctionner. Mais c'était pas si facile que ça en avait l'air. Thank you. énormément. On a même gravé un disque. Alors ça aussi, c'était quelque chose tout à fait étonnant. J'ai pas beaucoup de chance, moi, avec les disques violon et harpe, en fait. Parce que notre disque qui est sorti, qui s'était enregistré dans des conditions matérielles absolument horribles, parce que je crois qu'il devait y avoir 11 ou 12 degrés dans l'église et que... Voilà, je pourrais plus dire comme Leskine, oui, j'ai pas froid du tout, je me sens très bien, ce qui n'était pas du tout le cas. Bon, enfin, toujours est-il que nous avons beaucoup joué avec Patrice Fontanarosa et qu'il y a eu des moments formidables. Et puis, on a surtout beaucoup voyagé ensemble, en fait. Pas tellement à l'étranger, parce que je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il aimait pas beaucoup, finalement. Il aimait pas, en fait, aller à l'étranger. Il était assez casanier. Et comme moi, je me baladais quand même un peu dans tous les coins de la planète, du coup, je voyageais assez rarement avec lui. Et puis, on a fait énormément de croisières musicales. Et ça, c'était formidable parce que, ouais, il y avait tous les grands musiciens de ce monde qui se retrouvaient sur le Mermoz, hein, en particulier. Et ça, c'était des moments absolument fabuleux. Quand
ça ressemble à quoi, une croisière musicale?
Oh, mon Dieu. Ça ressemblait, bah, par exemple, pour un jeune instrumentiste qui jouait là pour la première fois, et bien, d'arriver pour jouer. Un bateau, c'est quand même assez exigu, hein, on va dire, même si c'était très, très grand. Et d'avoir au premier rang, à 2 mètres de vous, il y avait Laurine Mazel, Maurice André, Isaac Stern, Rostropovitch, Mintz. Ils étaient tous là au premier rang et vous étiez assis à votre harpe. Vous disiez, comment je pourrais faire pour jouer avec tous ces gens qui sont là? C'était juste terrible, enfin à la fois fascinant et redoutable. On mangeait tout le temps tous ensemble, on faisait des balades à terre tous ensemble. C'était joyeux, je peux pas dire autre chose que ça. Tout le monde jouait avec tout le monde. C'était improvisé. Je me souviens d'un tzigane comme ça, avec Mazel qui dirigeait, ou Mintz, je ne sais plus. Enfin, à la flûte, il y avait Rambal, à la trompette, il y avait Maurice André, Rostropovitch, Stern. Et moi, comme dirait l'autre, qui faisait en même temps la harpe, le célestat, le voilà. En fait, tout ça était improvisé, c'était complètement fabuleux. Il y avait des soirées déguisées, on dînait à côté des uns et des autres. Voilà, moi j'ai souvenir de Rostropovitch mangeant dans mon assiette parce que je mangeais pas assez vite. Il y avait une camaraderie exceptionnelle et d'être en liberté et en amitié comme ça avec tous ces gens qui étaient vraiment les grands musiciens du moment, c'était exceptionnel.
Évidemment, dans toute votre carrière, vous avez croisé beaucoup de musiciens, Marie Nordman. Il y a d'autres grandes personnalités qui vous ont marqué ou des musiciens avec lesquels vous avez eu des compagnonnages particulièrement longs et étroits.
Il y a un chanteur qui s'appelait Udo Reinemann, que j'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié, qui était aussi un musicien rayonnant, quelqu'un d'une gentillesse extraordinaire, qui a une voix magnifique. Grâce à lui, on en a fait de la musique pendant plus de 10 ans. Et grâce à lui, j'ai monté un énorme répertoire d'accompagnement de mélodies, avec beaucoup de Schubert. Évidemment, Schubert, il a rien écrit pour la harpe. Donc, c'était particulièrement passionnant de pouvoir rentrer dans ce monde-là. Et puis, l'accompagnement, et plus particulièrement l'accompagnement d'un chanteur, c'est quelque chose que personnellement, j'aime infiniment. Et puis, cette découverte d'un répertoire qui s'étendait tout le temps, de faire énormément de recherches. Je crois que j'ai toujours beaucoup aimé, j'étais assez curieuse sur un plan musical. Peut-être parce que le répertoire de l'harpe est finalement assez réduit. Enfin, il y a pas tellement de grands compositeurs qui ont écrit pour nous. Il y en a, mais pas énormément. Il y a beaucoup de petits maîtres qui ont écrit. Après ça, c'est aussi un parti pris dans une vie de harpiste de privilégier la grande musique, quitte à faire des transcriptions. Donc avec Reinmann, c'est vrai que je peux dire que les 9 dixièmes de notre répertoire, c'était des transcriptions. J'ai beaucoup tourné avec lui.
Et puis,
Duchâble, François-René Duchâble. Bon, Duchâble était et toujours l'immense pianiste et l'immense musicien qu'il était. Mais c'était drôle parce que nos rapports musicaux étaient très très étranges parce qu'il était un peu comme comme un petit garçon. Enfin, il était tout émerveillé de ce qu'il était possible de tirer d'une harpe. Parce que il faut dire que le fait de jouer avec Fontana Rosa, avec Duchâble, avec Reinmann, avec Leskin, avec Rampal, avec tous ces gens-là, m'a obligé à développer quelque chose de très important au niveau de la sonorité de la harpe, c'est-à-dire de ne pas être un instrument, maigre ou voire malingre, mais un instrument rond, puissant, qui faisait que les partenaires n'étaient pas obligés de jouer sur un crin pour que l'équilibre puisse se maintenir. Même bien sûr, on joue pas de la même façon, un pianiste ne joue pas de la même façon avec un violoniste ou avec une harpiste, c'est clair. Mais Duchâble avait trouvé cet équilibre. Et on a fait un disque ensemble avec un double concerto de piano, piano harpe, où il jouait d'un piano forte. Et là, on sait plus lequel des deux joue, et c'est très beau. Enfin, c'est en plus de la très belle musique. Musique la première moitié du 19e, avec un compositeur que personne ne connaît, Parrish Alvars, qui était anglais. Duchâble, il disait « Ah, mais j'adore jouer avec toi parce que de temps en temps, je fais seulement la mélodie et pour une fois, c'est toi qui fais les basses. » Donc ça, c'était, je sais qu'il aimait bien. En même temps, bien sûr, le répertoire était assez court, mais on a quand même beaucoup joué avec beaucoup de plaisir. C'était François-René, c'était quelqu'un avec qui on avait beaucoup d'affinités de l'esprit.
Thank you.
Fantaisie pour harpe et piano d'Elias Parish Alvars. Marielle Nordman à la harpe, François-René Duchâble au piano. Sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Les Grands Entretiens, vous retrouvez toutes les références des musiques que vous venez d'entendre. Et c'est sur cette même page que vous pouvez réécouter ce programme. À la prise de son, il y avait Olivia Branger, attachée de production Marion Guillemet, mixage Valérie Lavalard, réalisation Gilles Blanchard.
À réécouter sur francemusique.fr.